L'écho
du
parquet.
L'écho du parquet.
L'écho.
L'écho du parquet.
L'écho du parquet. L'émission qui met le feu
au plancher.
Il se dansait beaucoup ici dans,
où, dans le temps. Des valses, une heure de temps.
Ah oui,
monde.
Une heure et quart. Ouais.
Et bonjour.
Bonjour, vous êtes dans l'écho du parquet.
La 15e déjà, voilà. Et l'écho du parquet, c'est une émission qui est produite par Radio Méga 99.2 dans la Drôme. Et si vous habitez par chez nous, vous pouvez également la réécouter sur fréquence 7, 92 FM et Radio Saint-Ferréol 94.2. Et si vous n'habitez pas chez nous,
vous pouvez l'écouter sur Internet, sur notre audioblog Arte Radio. Vous tapez l'écho du parquet. Audioblog Arte Radio, ça va sortir. Et donc, pour ceux et celles qui ne savent pas encore, c'est une émission consacrée aux musiques et danses traditionnelles.
Voilà, avec un épisode tous les 15 jours. Et dans ce 15e épisode, de quoi va-t-on parler ?
Alors, on parlera du trio Loubelia, qui est un groupe qu'on a eu le plaisir d'interviewer récemment.
Mmh. Qui est venu chez nous et qui reviendra chez nous dans pas longtemps à Trad'Ardèche.
Voilà, et c'est pour ça qu'on vous le passe maintenant d'ailleurs, parce que dans quelques jours, semaines, ça dépend quand
vous
écoutez.
Deux semaines pour vous à peu près si vous écoutez sur les ondes. Et à l'heure à laquelle nous on vous parle, il reste quelques places, une quinzaine pour Trio Loubelia à Priva le 19 mai. Mais peut-être à l'heure à laquelle vous écouterez, il n'y en aura plus, essayez voir.
C'est dans le cadre du Festival Trad'Ardèche. Et on commence avec quelque chose de complètement différent, avec une nouveauté tout juste sortie en mars, l'album Spi du groupe Erwan Mengi Quartet, du nom du compositeur et flûtiste de la bande, qui joue d'une flûte traversière en bois. C'est une flûte qui s'entoure de cordes exclusivement, guitare, sistre, contrebasse, pour un quatuor qui est pensé comme une formation musique de chambre. Alors c'est
jazz quand même.
Ah oui, oui, bien sûr. En fait, il n'y a rien de la musique de chambre, ouais. À part qu'ils sont quatre.
Voilà, c'est ça.
Non, il y a quand même un équilibre entre chaque sonorité qui mm-hmm. fait penser à la musique classique. Quoi. Le quatuor est basé en Bretagne, mais les fans d'Enterre de Roux seront assez déçus puisque c'est une musique qui ne sonne pas du tout bretonne. Et par contre, les amateurs de grands espaces mm-hmm. seront conquis et conquises parce qu'on est quand même plus près du folk américain mm-hmm. avec une bonne dose de jazz, comme tu le disais.
Ouais, ouais.
Alors, il n'y a pas de danse ici, même pas bretonne, mais on sent quand même que le rythme les habite. Il y a des boucles assez lancinantes. Bon, donc finalement,
oui,
c'est pas celle de Landreau, mais...
Oui, quelque comme dans la musique bretonne, oui.
Voilà, il y a un effet hypnotique de la boucle qui fait que ça a un disque finalement assez planant aussi.
Mm-hmm, tout à fait.
On va écouter un morceau pas très planant pour le coup, qui s'appelle « Clin d'aile », et donc c'est Erwan Mengi Quartet.
Thank you.
L'écho du parquet.
Après le Erwan Mengi Quartet que nous avions écouté au début et qui, s'il ne fait clairement pas de la musique de Fesnoz, a quand même quelques petites résonances bretonnes qui trahissent leurs origines, on vient d'écouter un morceau du trio Lubelia, un morceau qui s'appelle Miche Steff, qui est une mazurka à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 temps.
Tout à fait, voilà. Bien compté, bravo, tu t'es pas emmêlé les pieds.
Presque pas, vous m'avez pas vu dans la cuisine. Et c'est un morceau qui est extrait de leur dernier album Bulle. Et donc maintenant, on va parler beaucoup plus en détail de Trio Lubelia.
Oui, puisqu'on a eu le plaisir de les rencontrer à Livron-sur-Drôme en février dernier. Donc, un trio où vous entendrez Marie Constant à l'accordéon diatonique, Roland Martinez à la clarinette et à la contrebasse. Il compose aussi les morceaux du groupe. Et puis un troisième larron que l'on n'entendra pas parce qu'il était malade ce soir-là.
Eh oui, je me souviens, il était très courageux sur scène.
Et oui, par contre, il n'a pas pu être courageux deux fois, donc ouais, il n'a pas fait l'interview.
Il a bien fait d'investir sur le bal plutôt que l'interview.
C'est vrai. Donc il s'appelle Florent Lallet et il est au saxophone ténor et soprano et au shaker et au chant. C'est un groupe qui existe avec ce nom depuis 2011 et avec cette formation depuis 2015. Et puis on peut juste signaler qu'avant ça, Roland et Marie jouaient déjà en duo. On vous laisse avec le trio Loubelia.
L'idée de Loubelia, c'est de vraiment faire un groupe qui trouve sa place dans un registre de musique qui est atypique, disons, globalement, dans le milieu des bals folk. Donc là, on défend un répertoire qui est un bal folk assez conventionnel à la base. On amène des danses que la plupart des gens qui vont dans les bals folk connaissent. Et après, petit à petit, on a développé une couleur un peu plus particulière. Alors, sachant que tout est de la composition. Et on a développé une couleur plus de danse de couple avec des rythmes atypiques aussi dans les danses de couple. Donc, notamment dans les valses et les mazurkas, on a développé vraiment des mazurkas à 5 temps, à 11 temps, des valses pareilles, à 5, bon 5 ça se danse couramment, mais 7, alors celle-là on la joue jamais, mais 8, bon c'est assez conventionnel aussi, mais 11, enfin voilà, on a quand même, on s'amuse beaucoup. Moi, en tant que compositeur, j'aime bien ces rythmes-là parce que ça me fait des contraintes pour pouvoir aussi explorer et la danse et la composition ensemble au service de la danse quand même. Et on l'a fait en lien avec un couple de danseurs et qu'on accompagne dans nos passages annuels, maintenant depuis quelques années, à Gentine. D'accord. Mich et Steph, qui sont nos parents belges, on les appelle, et qui sont des moteurs aussi de la création de répertoire sur ces dernières années, sur les derniers albums. Clairement, on a même nommé un morceau Mich et Steph, en hommage à eux. Et la démarche, c'est essayer de faire des musiques peut-être qui, à défaut de sonner comme des musiques de terroir, amènent quand même quelque chose, sont dansables vraiment correctement par les danseurs. Les danseurs peuvent trouver leur repère à l'intérieur avec l'intitulé de la danse. Et en même temps, amener des couleurs pas habituelles, donc ça peut être des couleurs un peu orientales ou sud-américaines où on ne sait pas trop d'où. En fait, parce que ça se mélange beaucoup et il n'y a pas forcément une réflexion qui est poussée dans le sens de l'authenticité des modes utilisés ou des pulsions, mais on essaie quand même de faire en sorte que ce soit vraiment dansable, au moins pour nous. En fait, Loubelia, tous les trois, on aime danser sur notre propre répertoire et on est comme, au moins Marie et moi, on est des danseurs qui aiment ça. Danser, on va souvent, dès qu'on peut danser, on le fait aussi. On confronte dans la création, c'est tout le temps en interaction avec ça. Donc ça ne nous donne pas une légitimité officiellement devant les musiques de terroir. Mais par contre, par rapport à ce que nous on ressent et ce qu'on vit dans la danse, en tant que danseur, vrai danseur aussi, souvent c'est acté. Si on a un doute, on a plein de copains danseurs très bons qui peuvent aussi nous dire « attention ». Donc mélange de compositions pour la danse et puis de liberté dedans parce qu'on a la spécificité un petit peu de faire pas des belles plages d'impro. Et comme ça, ça nous permet de pas avoir l'impression aussi de nous répéter trop et de rajouter des couleurs, des sensations. Et puis je pense qu'une des spécificités du groupe aussi, c'est la dynamique. On attache énormément d'importance à justement l'oxygène qu'on peut ramener à l'intérieur de l'interprétation, tant des thèmes que des improvisations. Et finalement, ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant dans un monde où il y a beaucoup de musique à bourdon et où il y a la dynamique est assez basse. Ce n'est pas une critique, c'est juste une constatation. Nous, on amène ce contraste-là. Et de toute façon, si en ce moment, il y a un petit succès quand même avec Loubelia, on nous appelle pas mal, on a pas mal de dates et tout en ce moment, je pense que c'est aussi dû à ça, cet espace qui est à l'intérieur, du coup, qui permet sur des plateaux d'avoir un vrai contraste avec un groupe qui est de musique à bourdon et puis nous qui arrivons et qui amenons cette dimension-là, qui l'apportons avec nos moyens, avec ce qu'on est, sans prétention, je dirais, quoi, mais avec beaucoup de plaisir, en tout cas.
C'est important qu'il y ait des gens qui dansent quand vous jouez et à quel point le bal c'est important pour vous alors que vous faites des trucs qui ressemblent très fort à du concert, quoi, parfois.
Ça nous arrive déjà de faire des concerts aussi. C'est toujours un peu une surprise. Disons qu'on le fait pas majoritairement, mais ça marche très bien, ouais, en concert. En fait, cette énergie quand même qu'on a quand on a une salle pleine de danseurs, c'est quand même quelque chose qui est assez indescriptible, je pense. Bon, moi je suis dans le milieu des danstrades quand même depuis petite, en fait, puisque j'ai connu ça, je vais avoir 7-8 ans, et j'étais au Cercle Occitan de Foix à l'époque, donc c'était bien bien trad pour le coup. Bon, après j'ai un peu perdu tout ce réseau-là, mais je naviguais un peu autour quand même, et quand j'ai retrouvé ça, je devais avoir plutôt 18-20 ans, quoi. Et c'est en Ariège que du coup j'ai connu Roland aussi. On buffait beaucoup dans les balles. On s'est rencontrés là. Pour moi, l'accordéon que je joue, c'est quand même un instrument que j'ai choisi aussi parce que. Alors qu'en vrai, ça serait beaucoup plus simple de jouer du chromatique avec Loubelia quand même, hein, franchement. Je ne vais pas dire le contraire. mais en fait, j'ai choisi cet instrument parce que je venais de ce milieu-là aussi. Parce que j'y connaissais rien aussi, il faut le dire.
Et.
Ouais, il y avait ce truc, puis moi c'était vraiment connecté à ce milieu trad, et puis j'avais un peu de monde autour qui était aussi là-dedans. Et c'est vrai que quand j'ai retrouvé ça, en retournant la fac à Toulouse, en fait, dans l'Estanquette et autres bistrots occitans, c'était vraiment une ambiance que j'aimais beaucoup. En fait, on est nourris, nous, quand même, énormément, par l'énergie que nous renvoient les danseurs. Et c'est assez paradoxal, parce que quand on fait du concert, on sent bien que l'écoute aussi, juste une écoute... peut-être plus attentive, on a la sensation, en tout cas, va être super enrichissante. Et c'est agréable, en fait. Ça fait toujours un peu, c'est toujours un peu intimidant quand on a l'habitude de faire surtout du bal comme moi. Mais le bal, c'est... Enfin, voilà, des fois, par exemple, on est malade, comme Florence ce soir, par exemple, on n'est pas trop en forme. Et en fait, juste cette énergie collective, ça nous porte énormément. Moi, je trouve que ça me porte plus que quand j'ai un public... qui écoute, je danse à moitié sur ma chaise ou debout quand ça fait vraiment, il y a une espèce de connexion et ça c'est important pour nous aussi du coup dans les musiques qu'on crée, même si c'est tout des compos comme disait Roland, qui est cette dimension, elle est vraiment fondamentale, quoi.
Évoquer les mazurkas à 5 temps, 11 temps, peut-être 7 aussi, je sais plus. Non.
8. Non, 5, 8, 11 en mazurka, on est... bon, peut-être, il faut le lancer. Faut pas le lancer parce qu'il va la faire la mazurka à 7 ans et demi. Hein.
Ça vient d'où cette passion pour les mazurkas particulièrement?
Ah! Je pense que ça, c'est un truc qu'on a en commun avec Roland. Mais moi, j'adorais les danses de couple quand j'ai découvert. J'étais très, très fan de ça. J'aimais bien m'exprimer beaucoup à travers. Mon accordéon sur ces danses que j'adorais danser aussi. Et en fait, c'est marrant parce qu'on a cartonné en Italie, en fait, avec Roland, quand on a commencé à jouer nos tout débuts, parce que c'est venu des danses de couple. Hein. On était en j'étais en Italie du Sud quand j'ai commencé à jouer, enfin, en boeuf. On nous a proposé un concert. C'est comme ça que j'ai appelé Roland et une amie là-bas, que j'ai rencontrée là-bas, en Italie. Et puis, on a monté ce premier trio qui n'était pas Loubelia à l'époque. Et en fait, ils adoraient ça, quoi, les danses de couple, parce qu'ils avaient beaucoup de danses, des tarentelles, etc., qui sont super énergiques, et où c'est des danses de séduction quand même aussi beaucoup, où on danse à deux mais sans se toucher, du coup, les mazurkas, c'était... Et donc, en fait...
Avec une énergie feu, surtout.
Voilà. Puis moi, j'avais énormément de mazurkas belles que je jouais d'autres groupes, au départ, que j'adorais, et du coup, on avait un bon répertoire de mazurka quand même. Hein. Et Roland, il aime bien aussi. Du coup, quand on s'est rencontrés, il avait déjà des belles compos, quelques belles compos de trad qu'on a vite développé. Au début, c'était un peu des emprunts, quoi. On prenait un peu des compos de groupes qu'on aimait bien, pour, parce qu'on a eu, en fait, on a eu des propositions de date avant d'avoir un groupe, quoi. Donc ça s'est pas vraiment fait dans l'ordre, donc c'est parti un peu wouhou. Mais la mazurka, c'était un peu un de nos points forts. Et c'est vrai que c'est drôle parce que du coup, après de tout ça, on traînait beaucoup en Italie quand on allait jouer là-bas, on restait quelques jours. Les gens disaient « Ah, on va aller là, c'est trop beau, si vous voulez, prenez les instruments. » Et donc, il y a eu cette espèce de mouvement assez incroyable là, des mazurkas clandestines qui s'est créé à ce moment-là. À Milan, à Naples, ils ont commencé à en faire partout, tous les deux jours, il y en avait. Et donc, ils nous appelaient, quoi, parce qu'ils adoraient ça. Donc on a énormément tourné en Italie au début, et beaucoup pour ça. Donc c'était quand même un peu notre spécialité, je dirais. Après, bon, ça, on fait un peu de tout, mais on aime toujours bien. Et c'est vrai que là, le jour où Mich et Steph nous ont proposé de les accompagner à Argentine, c'est ça qu'ils aimaient bien. Et puis ils avaient envie de faire... voilà, ils ont des petites suggestions comme ça. La valse à 7 ans, la mazurka à 5 ans, c'est eux qui nous ont demandé, en fait, hein, qui avaient envie de faire ça en atelier.
Est-ce que vous avez envie de vous définir comme un groupe qui fait du néo-trad ?
Ah oui, c'est ce qu'on fait. Après, on peut mettre plein de noms, mais moi, je me reconnais dans ce mot-là, puisque c'est du trad, entre guillemets, bal folk à danser, quoi, mais composé, et puis qui a sa propre, disons, sa propre identité, tu vois. Ouais, quelque chose de néo, ça veut dire nouveau. Bah oui, les compositions elles sont nouvelles. Enfin, la plus vieille, elle est vieille. Mais moi, je continue tous les jours, je compose. C'est toujours néo, c'est toujours nouveau, quoi.
Oui, oui. Après, il y a une couleur dans ces compositions qui est.
Bah, il y a plein de couleurs en fait.
D'avoir une grande écoute et beaucoup de dynamique. Et ça, c'est, je pense que c'est ce qui plaît bien aux gens souvent. C'est qu'il y a il y a de l'émotion. Que les musiques sont quand même assez riches, on a des harmonies qui sont quand même assez riches aussi, et ça va être surtout dans l'interprétation, on rebondit bien sur les... Il y a du silence, il y a des respirations, beaucoup. C'est vrai que par rapport à de la musique traditionnelle, vraiment trad, de terroir, comme disait Roland, ben, souvent on a du gros son, quoi. Et puis ça envoie du gros son en continu, et il y a du groove et sa cadence, etc. Et ça, c'est indiscutable, mais il y a peut-être moins ce truc-là. En tout cas, je pense que nous, on peut se démarquer un peu par ça, quoi. Et par le fait qu'effectivement, on se connaît bien, et que du coup, bah, ça fonctionne. Puis on a des rendez-vous, des fois, qui sont un peu prévus, puis il y en a d'autres pas du tout. Mais en tout cas, comme il y a beaucoup d'impro, on ne sait pas toujours ce qui va se passer. Ça ne se ressemble jamais vraiment. Et même sur des morceaux qu'on joue depuis super longtemps, il se passe toujours des choses... nouvelle, donc ouais, on est super néo-trad en fait.
En tout cas, Flo et moi, on aime improviser. Donc c'est pas un effort qu'on fait, ça fait partie de notre ADN de musicien, on a notre parcours, nos sensibilités nous amènent à, pour se sentir pleinement incarné en musique, il doit y avoir des plages d'impro. Après, il y a nos envies et après il y a la musique. On est au service d'une musique et pour un public quand même défini, les danseurs. Donc on essaie de trouver une bonne balance entre tout et on essaie de faire en sorte que nos impros, elles cassent pas la danse aussi, mais en même temps qu'elles nous éclatent en tant qu'improvisateur. Donc c'est pas du jazz, l'Oubéa. Dans le jazz, il y a un pro, dans l'Oubéa, il y a un pro, mais l'Oubéa, c'est pas du jazz parce que le jazz, c'est plein de musique déjà et puis nous, on n'en a étudié aucune. Par contre, on a cet amour-là, cet élan-là de se jeter dans le vide comme des goélands et puis de voir qu'est-ce qui se passe sans savoir ce qui va se passer. Des fois, c'est plus heureux que d'autres, mais on sait comment soutenir, on sait que si on improvise, moi, si j'improvise, il va y avoir Marie qui va asseoir le truc complètement, que Flo, il va être là aussi. Et du coup, on est toujours dans notre cahier des charges, on est, par rapport à la danse, on a vraiment développé une conscience de ce qui est plus possible que pas possible, tu vois. Et avec ça, avec ce discernement-là et tout, moi, je m'y retrouve totalement. Je crois que Florence s'éclate globalement, et Marie aussi, t'as l'air bien.
Ah oui, moi, je déteste improviser. Franchement, me jeter dans le vide et tout, j'ai le méga vertige. Donc, je déteste faire ça. Donc, moi, ce que j'adore, par contre, c'est être un espèce de gros matelas moelleux pour qu'ils posent leurs petites notes farfelues comme ça. Et non, j'adore les accompagner, en fait. Puis, en fait, j'ai beaucoup développé ça, parce que, de toute façon, moi, j'ai quasiment commencé à jouer l'accordéon en même temps que commencer à jouer avec Roland. Ça devait faire 3-4 ans quoi, que je joue au maximum. Donc du coup, j'ai complètement découvert l'harmonie, les accords, machin, tout en même temps que j'avais des propositions qui me faisaient de morceaux. Ou... Ensuite, il y a Camille Patrick qui est arrivée, qui avait aussi plein d'idées, plein de trucs, puis eux, ils avaient déjà de la bouteille. Donc moi, j'ai propulsé là-dedans. Donc de toute façon, de par l'instrumentarium, comme tu disais, je suis vraiment plutôt là pour... Enfin, ma place, j'adore jouer des beaux thèmes et tout, hein, je le fais, mais j'aime bien... Ma place, c'est plutôt d'accompagner que d'improviser, quoi. Donc c'est vrai que j'ai non jamais développé ça, mais je crois que c'est pas trop mon truc, hein. De toute façon, l'impro dans la vie.
Début, c'est quand même très associé à des voyages. On n'est pas un groupe localisé qui s'est développé sur un petit territoire. Notre territoire, c'est l'Europe. Donc,
c'est le monde, Roland.
Oui, bah, le Québec, l'hiver. Bientôt. et comme notre histoire, elle est associée à des gros voyages, parce que bon, bah, quand tu fais un bal de 2 heures et que tu fais 8 heures pour y aller de voyage et 8 heures retour et tout, on est beaucoup ensemble et puis on en discute aussi, hein, et puis on est dans le pays et puis on a des sensations et puis on a des rencontres. C'est plein de gens, en fait. Nous, c'est pas juste les pays, c'est les gens qui sont nos marqueurs aussi sur place, que ce soit tout le temps qu'on a passé en Italie. Il y a plein de figures qui me viennent, de visages qui me viennent en tête, et Marie aussi, et puis que ce soit au Portugal aussi. Et on a vraiment des villes, des lieux et des visages, tu vois, et c'est hyper important pour nous de mettre ça dans l'identité du groupe, et des noms aussi. Donc au début, avec l'Obéir, on était beaucoup en Italie. On a fait un groupe qui s'appelait Sonidor, ça veut dire bonne nuit en italien. Après, on a passé pas mal de temps au Portugal. On l'a appelé, le deuxième album, et on l'a appelé Rua da Alegria. Ouais. C'est le nom d'une rue de Porto, où c'est qu'il y avait notre meilleur ami de là-bas qui habitait.
Sur le folk ailleurs.
Pourquoi ils nous programment, je sais pas. Après, c'est en fait le folk en Europe, c'est quand même d'ailleurs ailleurs visiblement, c'est quand même une grande petite famille, quoi. C'est quand même un petit réseau finalement où on retourne très souvent. Et c'est ça, ce côté famille, c'est pour ça que je parlais de grande famille, c'est parce qu'on a vraiment on est retourné plein de fois jouer aux mêmes endroits à l'étranger. Après, bon, bah, le truc qui est un peu bizarre, c'est qu'effectivement, du coup, on retrouve un peu quand même les mêmes musiques partout. On voit pas toujours, quand on va jouer en Italie, un groupe local avant, par exemple, ou des fois c'est le cas, mais ça ressemble un peu à ce qu'on fait aussi, quoi. C'est pas forcément du trad de là-bas. Moi, pour rebondir là-dessus, j'ai quand même envie de le dire, si jamais il y a des gens qui nous écoutent, on aimerait bien jouer localement. Là, par exemple, j'ai lancé un atelier de danse trad à Gaillac, parce que j'aimerais bien qu'il y ait du monde qui danse dans notre coin, parce qu'il y a sûrement plein de gens, enfin, il y en a plein qui s'appelaient, mais qui ne connaissent pas trop. pour arrêter de prendre l'avion et d'aller tous les week-ends à l'autre bout de l'Europe, hein, parce que de toute façon, écologiquement, on ne va pas pouvoir faire ça très longtemps, ce n'est pas très raisonnable, et de toute façon, à un moment donné, ça ne sera plus possible. Et aussi parce que c'est très fatigant de faire ça aussi. Et que des fois, on se demande un peu qu'est-ce que c'est le sens d'aller. C'est super, on arrive, on est au fond de l'Allemagne, on fait un bal, les gens sont très contents. Le lendemain, paf, on repart chez nous. Moi, j'aimerais bien jouer dans les bleds autour, quoi, comme ils faisaient avant, dans les... comme ils faisaient dans toutes les fêtes, où tu avais toujours les mêmes groupes trad qui jouaient un petit peu partout. C'était le groupe du coin, ils venaient tous les week-ends, et puis c'était comme ça. Ça manque un peu, ce truc-là, je trouve. Et de... même si on n'a pas une musique traditionnelle à hausser, quoi, je dirais, ça serait chouette de pouvoir jouer un peu chez nous.
C'est un vrai groupe de jazz avec des musiciens qui sont vraiment ultra expérimentés, qui ont vécu des milliers d'expériences et donc qui ont ramené ça dans la session. Donc ils sont arrivés les mains dans les poches, genre ah ouais non j'ai même pas entendu le morceau, et puis à la fin, au bout de trois prises, on savait même pas laquelle choisir parce que tout était bien. Enfin c'était vraiment c'est exagéré quoi. Donc ça tire vers le haut aussi. C'est pas que ça. C'est quelque chose qui nous demande un effort, ça nous amène vraiment de la richesse personnelle à travers ces expériences-là.
Il y a toujours un ou deux morceaux qui sont composés en pensant à faire un peu une fanfare ou inviter des gens dessus, quoi, sur chaque album en fait.
Oui, bah c'est l'occasion de se faire plaisir. Un album, tu pourrais mettre que le trio. En fait, comme c'est une condition déjà qui est, restreinte par rapport à un live et par rapport à jouer pour des gens, autant profiter des avantages que ça peut avoir. De se retrouver enfermé dans un studio, faire venir des copains, rendre l'expérience festive ou agréable ou créative ou conviviale, quoi. Et c'est ce qu'on essaie de faire sur tous les albums, parce que comme ça, même ça ressort dans l'album. Et du coup, le fait de ne pas avoir que le son du trio, mais d'avoir des couleurs supplémentaires, moi, je trouve que c'est un plus, et on est assez d'accord là-dessus. Et puis, c'est le moment de sceller des amitiés, de graver sur un truc qui restera peut-être pour toujours... des moments même furtifs, quoi, quand on a... Il y a Pulcinella, mais là, le nombre d'artistes qui ont participé sur chacun des albums, il est énorme, quoi. Il y a au moins entre 10 et 12 artistes qui sont invités sur chacun de nos albums. C'est ce qui fait aussi, peut-être, qui marche, parce que nous, on est un des groupes de Baltra, j'ai l'impression qu'ils vendent pas mal d'albums par rapport à beaucoup, parce que nos albums, les gens les écoutent parce que c'est, musicalement, ça va dans plein de directions, c'est coloré. Mais aussi, je pense, parce qu'il y a des couleurs dues aussi aux invités.
C'est à la fois les voyages qu'on a fait et les gens qu'on a rencontrés. Donc comme là, on va au Canada, peut-être qu'il se passera des choses là-bas, on ne sait pas trop encore.
Mais alors, et à propos, donc cet album-là dont vous n'arrêtez pas de parler, il sort quand ?
Dans 8 ans, je pense.
J'avais une chérie qui s'appelait Anna à ce moment-là, et moi j'avais envie d'aller avec elle à Ibiza, donc j'avais acheté deux billets d'avion pour là-bas. Et puis je lui tends et elle m'a dit non, je viens pas. J'ai dit bon, bah il n'y a pas Anna à Ibiza, donc voilà. Et ça a fait un jeu de mots là, con.
Il est subtil, Roland.
Une contraction.
En tout cas,
les peines de cœur
et les peines à Ibiza, Roland, ça lui fait composer des trucs trop beaux.
On te souhaite encore beaucoup de peines de cœur.
Merci.
Alors, vous l'aurez compris, le morceau que vous avez écouté tout au long de l'interview, c'était ce fameux morceau « Pana Ibiza ».
Et maintenant, comme disaient les Monty Python à l'époque, « And now something completely different ».
O quale giorno di primo da che titi, o quale giorno di primo da che titi, la bella margarina tombata al rio, la bella margarina tombata al rio, la tappe per la raua per la manta, la tappe per la raua per la manta, e la mini scegli al ci gusta, e la mini scegli al ci gusta, e ti dirò un paio come vero. De ti dirò un paio come vero, dirò che sei bondato e mi votro, dirò che sei bondato e mi votro.
Et nous venons d'écouter Madame Reichert, dite la chasseresse, nous chanter une bourrée. Et nous étions à Paris, au Folk Club Le Bourdon, à un moment indéterminé entre 1969 et 1989. Le titre qu'on a écouté fait en effet partie d'une série de 3 CD qui présentent les archives du Bourdon telles qu'elles ont été récupérées, identifiées, triées et d'une certaine manière remasterisées par le musicien multi-instrumentiste, Jacques Benaïm, dit Ben, membre historique du Grand-Mère Funibus Folk et pilier du Bourdon dans ses années de gloire. Tous ces documents sonores qu'il nous propose, ils ont été en quelque sorte sauvés presque par hasard de la destruction. Tout ça avait été enregistré par quelqu'un qui s'appelait Yannick Leroy-Gourand. Et il se trouve qu'un jour, alors que tout ce matériel de bande magnétique...
Tout ça est beaucoup plus, même. Tout ça a été trié, comme tu dis.
Il y avait des kilomètres et des kilomètres de bande qui, en fait, prenaient le chemin de la déchetterie. Et vraiment, in extremis, un musicien qui passait par là, qui a compris le truc, a dit « Non, non, arrêtez, faites pas ça, c'est pas une bonne idée. » Et il a tout mis dans sa voiture, il l'a récupéré et il l'a ramené à Ben, dont il savait que ça l'intéresserait. Et depuis, Ben dispose d'un fonds d'archives sonores du Bourdon. Et il a décidé d'en extraire un certain nombre de titres pour présenter donc ces 3 CD d'archives qui nous permettent de nous mettre dans l'ambiance. Avec toutes les difficultés qu'il a eues, à se souvenir par exemple de choses toutes bêtes comme qui c'est qui joue ou qui chante sur tel morceau, faute de la moindre identification qui accompagnait les bandes. Voilà, il n'y avait que le son et aucune note à côté. Alors rappelons quand même de quoi il s'agit, on ne va pas faire comme si tout le monde connaissait cette histoire. L'histoire commence en décembre 1969, lorsque des participants des soirées Hootenannies, qui c'était des sortes de scènes ouvertes qui se tenaient au centre américain de Paris, un peu sur la mode de ce qui se faisait dans les milieux... hippies ou branchés américains. Donc quelques-uns d'entre eux décident de fonder une association qui a pour but, cette fois-ci, non plus la diffusion des musiques traditionnelles américaines, mais la promotion des musiques traditionnelles françaises. Et ils décident de nommer cette association le Bourdon, qui est le nom de cette note plus ou moins continue, qui est le fondement sur lequel se pose ensuite la mélodie dans les musiques traditionnelles, ce qu'on nomme en anglais « drone », qui est aussi le nom d'un style de métal aujourd'hui. La petite bande de l'époque, elle inclut Catherine Perrier et son mari John Wright, mais aussi Jean-François Dutertre, Jean Loubali, qui sont tous deux futurs membres du groupe Mélusine, ainsi donc que notre ami Jacques Benaïm, Ben.
On peut noter que c'est un endroit où on ne danse pas, on écoute la musique, on la joue, on la partage, mais on la danse très peu, pas encore en fait.
Voilà, c'est ça, c'est l'idée, chacun vient sur scène et présente des morceaux qu'il a. Alors l'idée de danser viendra progressivement, et ceux qui ont écouté l'émission sur Malataverne il y a 2 semaines verront un peu d'où ça vient, on en reparlera plus tard dans l'émission, mais c'est vraiment des gens qui récupèrent, s'approprient des mélodies et les proposent aux autres. Et leurs premières soirées ont lieu au Café de la Gare, qui était le lieu de Romain Bouteille et de toute sa troupe, avec Coluche et compagnie. Puis ils se fixent rue de la Sourdière, près des Halles, à Paris, et c'est là que le Bourdon s'est largement développé. Et ce qui se trame à ce moment-là, dans cet endroit-là, c'est au moins le versant parisien, disons, du revival trad français, qui privilégie les interprètes des musiques traditionnelles plutôt que les auteurs-compositeurs folk sur le mode Bess Dylan, qui était également en vogue à l'époque. Voilà. On va vous mettre sur la page de notre émission, sur notre audioblog, quelques liens qui vous permettront d'approfondir cette histoire si vous ne la connaissez pas bien. On vous mettra par exemple la série de podcasts Contre-temps qui a été produite par la FMDT et qui est consacrée aux pionniers du folk. Vous pourrez entendre ça plus en avant. Mais tout de suite, dans l'écho du parquet, on va replonger dans l'ambiance de ces soirées du Bourdon avec un autre extrait de ces trois CD d'archives. Et là, cette fois-ci, c'est Daniel, le frère de Jacques Benahim, qui interprétait un morceau qui s'appelle « Réveillez-vous, la belle endormie ».
Réveillez-vous, belle endormie, réveillez-vous, si vous dormez, mettez la tête à la fenêtre. Vous entendrez parler d'amour. La belle amie, le pied à terre, tout doucement s'en est allée. D'une main, elle ouvre la porte. Entrez galant si vous m'aimez. Combien de fois je suis passé devant ta porte à la minuit. Tu ressemblais à une morte, toute blanche couchée dedans ton lit. Je ne dors pas lorsque je veille toute la nuit. Je suis privé toute la nuit. Mon cœur sommeille, mon cher amant, marions-nous. Mais la belle s'est endormie entre les bras de son amant, et celui-ci qui la regarde en lui voyant ses yeux mourants. Étoiles sont brillantes et le soleil est éclatant, mais les beaux yeux de mon ami en sont encore bien plus troublants. Donne-moi ta fille, tu m'y rendrais le cœur content. Beau paysan, donne-moi ta fille, tu m'y rendrais le cœur content. Je ne peux pas te donner ma fille, car elle n'a pas passé 15 ans. Je ne peux pas te donner ma fille. Faites l'amour en attendant. Now
something completely different.
On n'arrête pas de faire des choses différentes.
C'est le running gag de cette émission, en fait, qui est très varié.
Le trad a plein de facettes. Hein. Tout ça n'était que du trad, mais très différent.
Et oui, puisqu'on va se quitter avec un morceau grec qui s'appelle Tsibari, qui est issu de l'album Folk in Vitro, un projet né pendant le Covid, de Yanis Belonis au piano et Théophrastos Patès à la guitare électrique. Alors, c'est les deux musiciens colonne vertébrale du disque, mais il y a aussi pas mal d'autres musiciens invités sur le disque. Et son concept, c'est d'explorer des morceaux très connus des traditions grecques et balkaniques en les arrangeant à leur sauce. Donc, on écoute Tsibari de l'album Folk in Vitro.
Et on se dit à la prochaine hein, sur ce morceau.
Σε ξενύχια ζει.